chacun sa fraternité avec Rimbaud. Rimbaud a repolitisé pour une jeune génération de chercheurs ou figure christique chez Claudel avec Didier Sandre et Frédéric Thomas.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Pas si lointain de Jim Morrison dans un article du dernier numéro de Parade Sauvage, la revue d'études rimbaldienne aux éditions Classique Garnier, revue dans laquelle vous signez, Frédéric Thomas, un article sur la fraternité d'esprit entre Arthur Rimbaud et Jules Andrieux, communards exilés à Londres après la Semaine sanglante. Loin, bien loin apparemment, du Rimbaud que Claudel place au centre de la messe là-bas, ce long poème de 1917. Que vous mettez seul en scène, Didier Sandre, au studio de la Comédie Française, dont vous êtes par ailleurs sociétaire depuis cette année. Bonjour et
bienvenue
à tous les deux, l'un ici à Paris, l'autre à bonne distance belge. Une première question, un peu pour l'évacuer, il faut bien le dire. L'entrée de Rimbaud et Verlaine au Panthéon, qui n'aurait sans doute convaincu ni Claudel ni Andrieux, c'est une belle idée ou un contresens historique, politique, voire amoureux. Frédéric Thomas, peut-être, si vous m'entendez.
Oui, je pense que c'est un contresens et ça donne surtout la mesure de la misère intellectuelle du champ médiatique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à ce non-événement qu'on érige en spectacle, alors que c'est la question n'est vraiment pas là, de relire et de lire Rimbaud et d'essayer de comprendre ce qu'il nous dit de son époque, de notre époque et de la poésie.
Didier Sandre.
Écoutez, je crois que j'ai pas grand-chose à ajouter à ce que je viens d'entendre. C'est magnifiquement exprimé. Ça me paraît tellement aberrant. Rimbaud Panthéon. Je sais pas. C'est une insulte à tout ce qu'il a pu représenter, tout ce qu'il a mis en poésie.
Alors Claudel, pour en venir à lui, enterré en son château de Brangues, lui en 55, et sur son tombeau, un simple et mystérieux « Ici reposent les restes et la semence de Paul Claudel ». Est-ce que vous y êtes allé, Didier Sandre? Est-ce que travailler un texte pour vous exige d'en savoir tout ou presque?
Oui, enfin, il y a une tentative de curiosité sur des œuvres aussi riches, aussi complexes. À propos de la semence de Claudel, il dit que Rimbaud a eu une influence séminale sur lui. Et bien sûr, ce texte, la première fois que j'ai rencontré, le titre m'a paru évidemment rébarbatif, comme à tout le monde, d'autant plus que je n'ai rien de catholique, je suis d'origine luthérienne, protestante, et donc très très éloigné de la messe catholique romaine, telle que l'aime Claudel. Mais en même temps, Claudel, à travers la messe là-bas, il y a une espèce de catholicisme, de la foi du charbonnier un peu. Il y a un déploiement d'anges, de toute une phatrasie comme ça, décorative avec laquelle il s'arrange, et puis il parle à Dieu en direct comme s'il y avait une ligne rouge entre deux, ce qui est pas du tout catholique, parce que bon, les protestants parlent à Dieu d'une façon verticale. En principe, dans la religion catholique, on est dans l'horizontale avec des tas d'intermédiaires, les anges, les saints, les pères, les Marie, bien sûr, avant d'accéder à Jésus et tout ça, et Dieu. Donc, vous savez, ce catholicisme dont il est question dans la messe là-bas, pour moi, ce sont des petits arrangements qu'on se fait pour conjurer la solitude, pour conjurer ses propres ténèbres, pour conjurer l'exil, pour conjurer la menace de la folie dont il a été obsédé tout le temps à cause de l'exemple de Camille, de sa sœur Camille. Il était terrorisé à l'idée que le talent et le geste artistique pouvaient engendrer systématiquement la folie et la mort.
Alors ce texte-là que vous mettez littéralement debout, Didier Sandre, La messe là-bas, hein, c'est un poème de crise d'une certaine façon, hein, qui est écrit alors que Absolument. Claudel est ambassadeur pour les affaires de la France à Rio de Janeiro en 1917. Le poème lui-même, c'est-à-dire le texte, sa structure est calée sur la liturgie d'une messe, et c'est, en ce qui vous concerne, Didier Sandre, la seconde fois que vous le portez en scène. En 2010, c'était pour Christian Sciarretti, c'était au Théâtre des Gémeaux.
Oui, c'était une lecture en fait, hein. C'était une lecture mise en espace, mais j'avais la brochure à la main. C'était pas du tout le même travail que je
que ce que vous faites aujourd'hui, ouais, mais c'était une mise en bouche du texte, ouais, tout malgré tout. Cette fois, c'est donc vous, effectivement, qui le mettez debout, hein, un plateau nu, trois panneaux, trois tabourets, un pupitre. Qu'est-ce que ce texte vous a fait pour que vous y retourniez en votre nom cette fois, 10 ans après? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Qu'est-ce que vous avez fait de ce texte pendant 10 ans au fond?
Mais parce que je pense que ce déferlement de la parole, qui est une espèce de torrent comme ça de mots, que la phrase claudelien, le verset claudelien, parce que c'est écrit en versets rimés, plus exactement, qui ne sont pas rythmés, qui n'obéissent à aucune métrique, mais qui sont quand même rimés. Donc il y a ce flot torrentiel des mots. Et en même temps, ce flot torrentiel, pour moi, ne parle que du silence intérieur, que de la vie intérieure, la vie qu'il peut avoir en exil, dans cet état de crise qui est la guerre de 14 en Europe, le milieu de la vie, 50 ans, et dans cette solitude, dans cette nature brésilienne qu'il ressent à la fois comme la création de Dieu et en même temps comme hostile, dans une protubérance et dans une générosité qui lui paraît monstrueuse. Et dans ce dénuement, dans ce désarroi, il convoque un peu ses fondamentaux, c'est-à-dire sa conversion. Mon Dieu, pourquoi sa tentative de rentrer dans les ordres. Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous repoussé?
Repoussé, oui.
Cet amour fulgurant qu'il a rencontré sur le bateau en Chine de Rosalie Vetch, cette fameuse rose dont il est question tout au long du texte. Et Rimbaud,
bien sûr,
c'est-à-dire évidemment qui occupe une partie centrale dans cette messe. Et
je vous en prie.
En 17, je veux juste ajouter ça. En 17, il reçoit donc une lettre de cette femme qui l'a quittée alors qu'elle était enceinte, cette femme fulgurante comme ça.
Cette rose. À épines.
Voilà, c'est ça exactement. Il reçoit une lettre d'elle pour la première fois depuis 13 ans et elle lui annonce qu'il est papa d'une petite fille qui s'appelle Louise. Alors qu'il a déjà 4 enfants, lui, avec sa femme régulière, Reine Sainte-Marie Perrin. Et donc c'est une espèce de bouleversement profond qui l'expose comme ça à travers ce rituel de la messe et qui me touche en bien des endroits.
Alors on va examiner ça de plus près. Peut-être un mot justement sur ce là-bas qu'il colle à la messe. Comment est-ce qu'il faut le comprendre? Est-ce que c'est un là-bas d'exilé ou c'est un là-bas d'ici, de là où il parle,
hein? Ben c'est les deux, hein, vous savez, comme dans tout langage poétique, je veux dire, c'est à double face, c'est à double fond, c'est à sens multiple. Je pense que c'est à la fois la messe là-bas, pour les combattants de la guerre. Les combattants de France sont là pour dire qu'il y a moyen de répandre son sang. Et la messe là-bas, la messe à Rio de Janeiro aussi, où il est en, en poste diplomatique.
Au fond, qu'est-ce que c'est que la messe pour lui? Parce qu'on sent bien qu'elle n'est pas du tout celle du paroissien du dimanche, hein, qu'il gratifie de tout son mépris dans le poème. Oui, ça donne lieu à quelques versets assez savoureux.
Oui, oui, c'est incroyable pour lui cette messe, parce que j'en croyais pas mes yeux quand j'ai lu ça, mais il y allait vraiment tous les jours. Et en consommant l'Eucharistie, c'est-à-dire pour lui le monde de Dieu, le monde dans lequel nous vivons, est le monde tel que c'est décrit dans la Genèse, c'est-à-dire que c'est un monde fini. C'est un monde fini, et Dieu créa l'homme et la femme, et voilà, c'est comme ça, ça ne bouge pas. Et il croit aussi à ce phénomène physique aristotélique. Je crois que c'est dans la philosophie aristotélicienne que la notion de substance est développée. Il croit à la transsubstantation, c'est-à-dire que quand il prend l'hostie, le pain et le vin, il communique vraiment avec le corps et le sang de Jésus-Christ, ce qui me paraît. Mais il dit que tant qu'il n'a pas fait ça, il ne peut pas commencer sa journée. C'est une régénération, c'est une espèce d'engendrement par lui-même pour commencer sa journée. Ça me paraît tellement hallucinant sur le plan de la foi, etc., que pour moi, ça fait partie d'un univers poétique complet dans lequel je trouve ma place, parce que pour le reste, je comprends pas. Et il parle de cette Eucharistie quasiment d'une façon cannibale, je veux dire, la façon dont il a ingéré le pain et dont il ingère le vin, etc. C'est un processus quasiment cannibale pour moi qui m'amuse, même si je le prends au sérieux, parce que pour lui c'était extrêmement sérieux, mais il y a quelque chose de païen là-dedans, dans cette mendication incroyable.
Oui, il parle aussi d'ailleurs de ce vin très fort qu'il a fallu pour pouvoir justement se détourner de rose,
Le vin que préfigura jadis l'ivresse de Noé.
Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, Didier Sandre, votre enfance ou votre éducation, alors plutôt donc du côté luthérien, du côté protestant, oui. Une enfance dans laquelle la religion était quand même assez présente, en tout cas le temple était assez présent. Alors, je ne sais pas si c'est, vous avez l'air de dire, à plusieurs reprises déjà, vous avez l'air de vouloir vous éloigner de cette dimension-là du texte de Paul Claudel, mais je me demandais si ça pouvait être un point d'appui. Malgré tout, pour jouer Claudel, vous écrivez dans votre déclaration d'intention « Il n'y a pas pour moi adhésion à une profession de foi, mais à une œuvre poétique et théâtrale qui s'identifie au verset de l'Évangile selon saint Jean, au commencement était le Verbe ». Malgré tout, qu'est-ce qu'il vous reste de cette éducation-là dans votre rapport au théâtre, c'est-à-dire peut-être un rapport particulier au texte et au Verbe ?
Oui, mais tout à fait, vous l'avez dit, je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'est vrai que quand mon grand-père était pasteur, et donc, enfant, quand j'écoutais les histoires de Jésus, qu'il était en chair et qu'il les commentait et qu'il y avait de la musique, etc., pour moi, c'était déjà un espèce de théâtre extraordinaire qui m'a beaucoup impressionné. Et j'ai une relation un peu sacrée avec le théâtre. Paraître sur scène, c'est comme entrer dans une église. C'est sérieux, c'est grave, même si on fait rire. Et sans doute ça me vient de ces empreintes originelles à travers Claudel. Ce que je trouve aujourd'hui, c'est ces conflits extraordinaires qui nous agitent tous encore aujourd'hui entre la terre et le ciel, quoi. C'est le besoin de vie spirituelle, le besoin de la vie de l'esprit. Alors, ça passe par le théâtre, ça passe par l'art, ça passe par la littérature, ça passe par la religion, etc. Mais enfin, je trouve qu'on peut difficilement faire. Si on fait l'économie de cette vie de l'esprit, cette vie spirituelle en soi, de ces grands questionnements, je trouve qu'on souffre. Je trouve que l'humanité souffre de ce manque de spiritualité.
Alors cette voix-là, Didier Sandre, celle du théâtre, alors je ne sais pas d'ailleurs si c'était transgression pour vous, de là où vous veniez, que de choisir le théâtre. Non, le théâtre.
Ah, le théâtre, oui, tout à fait. Oui. Oh là là, oui, ça a été difficile.
Alors cette voix, donc, elle s'ouvre justement pour vous avec l'échange de Claudel en 68. Alors bien que cette expérience-là soit le plus souvent retirée de votre biographie, mais on va peut-être en parler tout à l'heure. Et voici ce que disait Jean-Louis Barrault en 1951 de cette pièce dont la première version est écrite en 1894.
Si Claudel a été auteur dramatique, c'est parce qu'il renferme en lui une population. Plusieurs personnages. Ces différents personnages on peut les trouver à l'état de départ dans l'échange précisément. Il y a quatre personnages dans l'échange. Il y a Louis Laine, qui est le jeune poète sans poche, l'anarchiste, enfin le Claudel influencé par Rimbaud. Il y a Marthe, qui est la femme qui représente à la fois la Vierge, l'Église, et la femme, et la solidité, et l'équilibre, et la santé, la victoire. La victoire, c'est le Claudel converti. Et il y a Léchiel Bernon, qui est un personnage à moitié fou et complètement lyrique et burlesque, et même absolument tragique et fantastique, qui est le Claudel lyrique qui va au bout de son imagination. Et puis il y a Thomas Pollock Nageoire, qui est l'industriel américain, le financier, c'est le Claudel président d'un conseil d'administration, le Claudel père de famille, propriétaire d'un château, le notaire, 36 petits-enfants, etc. Le Claudel qui réalise ce que désirait Tête d'Or au départ de sa vie, faire qui me donnera la force de faire.
Limpide, hein. Limpide,
le patriarche de Brangues. Ouais.
Oui, en tout cas pour le dernier. Et vous, ouais. Vous avez choisi Didier Sandre avec La Messe là-bas, un texte qui d'une certaine façon donne la parole aussi aux quatre.
Absolument.
Même si ça penche alors un petit peu côté lyrique et converti, mais néanmoins, les quatre sont là, absolument, ce que décrit Jean-Louis Barrault. Ouais. Sur scène, vous êtes pieds nus en smoking, hein. C'est aussi ça que ça dit ?
Oui, c'est-à-dire que j'ai beaucoup hésité, mais le smoking, bon, c'était une façon de rendre compte de son état de diplomate. En plus, à l'époque, le smoking se portait facilement, on dînait assez facilement en smoking, etc. Et en même temps, je trouvais que les pieds nus et les mains nues étaient dans cet espace vide des éléments d'expression qui me paraissaient être adéquats avec le verset claudelien. Je n'arrivais pas à envisager des chaussures sur ce plateau. Et j'avais aussi très envie qu'il soit entre ciel et terre, et la superposition des tabourets pour me mettre en déséquilibre par rapport à la
terre. Parce que vous vous installez sur... vous empilez des tabourets et vous vous installez en hauteur sur...
Oui, comme une espèce comme la tour d'Empédocle ou je sais pas, entre ciel et terre, quoi. Il est juché quelque part entre ciel et terre. Et là, pour le coup, les chaussures, ça collait pas, quoi. J'ai eu peur qu'on me dise, oui, d'accord, les pieds nus, alors où sont les clous, et pourquoi pas les clous, et sur les pieds, tout ça. Je me dis, on va me poser des tas de questions sur le symbole. Et en fait, quand on prépare un spectacle, on est beaucoup par intuition, on est beaucoup par, après, on revient dessus parce qu'on a peur, parce qu'on voudrait des explications rationnelles à ce qu'on a imaginé. Mais en fait, essayer de rendre compte d'un texte sur scène, c'est une part de création poétique aussi, comme ça, qui sont de la création des images, et on n'explicite pas forcément les images qu'on a envie de créer.
Puisque Jean-Louis Barrault parlait de l'échange, hein, donc j'ai pu voir qu'effectivement il est signalé ça et là que donc vous démarrez avec l'échange. Oui. Alors j'imagine que c'est aussi particulièrement spécifié là que vous jouez Claudel. Oui. Quel genre d'acteur est-ce que vous étiez à ce moment-là? Parce que vu votre formation, vous aviez une formation de théâtre, mais qui a priori ne prédisposait plutôt pas à la langue de Claudel.
Non, pas du tout. Et puis, quel genre d'acteur j'étais? J'étais même pas acteur du tout. Je pense que j'étais un jeune homme assoiffé de vouloir faire du théâtre, mais je n'avais aucune idée. Moi, ce qui m'a toujours porté vers le théâtre, dirigé vers le théâtre, c'est la poésie. En fait, quand j'étais enfant, j'adorais la poésie, j'adorais les histoires de Jésus, hein, bien sûr, mais aussi j'adorais les récitations à l'école. On trouvait que je récitais bien. Quand j'étais dans le centre culturel de ma banlieue nord, le seul endroit où je pouvais espérer faire du théâtre, on m'a demandé d'apprendre des poèmes, et puis j'ai passé des concours régionaux de diction de poèmes, puis je les ai remportés, et puis cette parole poétique, voilà, c'est toujours ça que j'ai aimé. Et c'est pour ça que quand il y a eu cette rencontre avec Claudel, j'étais à la maison, j'avais l'impression que c'était pour ça que je faisais du théâtre. Quand j'ai rencontré Racine ou les vers me fascinaient, j'adore ça.
Alors justement, transition toute trouvée, puisque vous parlez de Claudel et de Racine. En 87, vous jouez le Soulier de Satin dans la cour d'honneur à Avignon, dans une mise en scène de Vitesse. Et voilà ce que Vitesse dit justement de ce que c'est que l'acteur de Claudel hein, dans un documentaire de Pierre-André Boutan et Claude Méni.
La présentation typographique de Claudel oblige l'intonation de l'acteur. C'est-à-dire, on ne peut pas échapper à la typographie de Claudel. Parce que la typographie est une notation exactement comme la notation d'une musique sur une partition. Donc, sans avoir besoin d'écrire des notes sur une portée, Claudel, par le système même de son écriture, par la coupe des mots, par la coupe des vers, par l'introduction des expressions toutes faites, crée un système de paroles obligées, d'intonation obligée du vers. Et ça, c'est une chose tout à fait extraordinaire dans la littérature française, parce que c'est l'exact contraire de Racine. C'est-à-dire que Racine, au contraire, écrit des alexandrins réguliers, parfaitement réguliers, mais que l'on peut prononcer, à condition naturellement de prononcer l'alexandrin, mais que l'on peut prononcer exactement comme on veut. C'est-à-dire que les intentions et les intonations dans le vers de Racine sont à la discrétion de l'acteur. Tandis que dans le vers de Claudel, pas du tout, il nous oblige à prononcer comme il a lui-même prononcé. Nous devons le suivre. Donc nous reconstituons littéralement sa parole.
Didier Sandre, vous êtes d'accord? Claudel oblige hein?
Oui, d'une certaine façon. Mais pas tellement plus que Racine aussi oblige, je trouve. En plus, parce qu'il y a une métrique extrêmement rigoureuse, alors que dans Claudel, la métrique est très libre. Elle est illuminée par les illuminations de Rimbaud. Hein. Le vers libre, quand même. Bon, alors même s'il y a des alinéas, même si etc. Moi, je suis pas pour un respect absolument musical du verset, parce que le sens est occulté. La phrase devient uniquement musicale et je tiens absolument à ce que le sens toujours soit d'une concrétude parfaite. Parce que le vers de Claudel est aussi très proche du langage paysan, du langage glaiseux de la Champagne d'où il vient. C'est comme chez Ramu, il y a une espèce de glaise qui est attachée, de parler populaire aussi à l'intérieur de ce bousculement de la syntaxe qui fait que ce n'est pas uniquement une sophistication métrique ou musicale, etc. C'est aussi un parler rude, un parler argileux, glaiseux. Il suffit d'écouter parler, hein, quand il roulait les airs et tout ça. Donc, je pense que quand on essaye d'aller dans ce sens-là, pas uniquement dans la musicalité, mais dans ce sens-là aussi, je pense qu'on devient très concret et qu'à travers le concret, on peut communiquer avec le spectateur.
Bon, alors, puisque justement vous en parlez, on va juste l'écouter quelques petites secondes, la voix de Claudel, disant justement la messe là-bas.
Et quand la création, après le jour sans heure, se condense une fois de plus du néant, fidèle à l'immense quai, chaque soir je vais revisiter l'océan, la mer, et ce grand campement tout autour, avec un million de feux qui s'allument, l'Amérique avec toutes ses montagnes dans le vent du soir, comme des nymphes couronnées de plumes. L'océan qui arrive par cette porte là-bas et qui tape contre la berge haute, sous le ciel chargé de pluie de toutes parts, ces chandelles de 50 pieds qui sautent. Mon esprit n'a pas plus de repos que la mer, c'est la même douleur démente, la même grande tache de soleil au milieu sans rien, et cette voix qui raconte et qui se lamente. Voici la contagion de la nuit.
C'est donc la voix de Claudel lisant un extrait de la messe là-bas. C'est pendant un entretien d'ailleurs extraordinaire qui est facilement trouvable sur Internet avec Jean Amrouche en 1950. Je vous voyais sourire et presque chanter avec lui en même temps que vous l'écoutiez, Didier Sandre.
Mais oui, parce que là, ça illustre assez ce que je viens de dire dans le sens où, vous voyez, il dit, et quand après le jour se condense une fois de plus du néant, je veux dire, c'est pas une fois de plus du néant, c'est une fois de plus du néant, et quand l'Amérique avec toutes ses montagnes dans le vent du soir, il y a une façon de rythmer le vers, on l'entend parfaitement quand il le dit lui-même, qui est une façon populaire, campagnarde, de s'approprier les images, de dire, de prononcer les images. Je suis très content que vous ayez passé cet extrait parce que je le connaissais bien sûr, et pour moi ça a été vraiment une clé pour comment dire ce texte sans être élégiaque, sans tomber dans le lyrisme d'époque dans lequel il est lui, de cette espèce de chose où vous imaginez 1h10 d'un acteur qui déclamerait comme ça, c'est insupportable quoi. Donc, mais dans ces extraits là on sent très bien comment les mots qu'il a écrits sont ancrés dans du concret.
Alors, il y a, je sais pas, une bonne 127, 130 pages, quelque chose comme ça, des centaines de versets. Et puis donc cette langue rugueuse, glaiseuse, dites-vous Didier Sandre, avec des changements de ton, d'adresse, de locuteur. On passe de la plainte à l'ironie, une forme de méchanceté même, hein, qu'on lui connaît bien par ailleurs, de regret. Alors vous allez me dire, c'est votre métier, Didier Sandre, que le travail de la mémoire. Néanmoins, vous êtes seul sur scène avec ce lourd texte. Hein, quels sont les points d'appui qui permettent, est-ce qu'il y a des points d'appui particuliers qui permettent de le tenir, de le dire sans fléchir?
Alors, les points d'appui, c'est le travail, hein, c'est...
S'en douter un peu.
non, mais c'est vrai, bon, là, j'ai adoré ce travail. À la Comédie Française, les salles de répétition sont très occupées à partir de 13h en général. Donc moi, j'y allais à 9h, de 9h à 13h, tous les jours, comme on va au boulot, voilà, pour bosser tout seul sur cette matière textuelle que je connaissais déjà, mais que je n'avais pas expérimenté dans le but d'un face-à-face, d'un solo avec le public. Et là, on peut rejoindre le travail d'un musicien qui déchiffre une partition et qui continue, pour qui l'étude est un perpétuel dévoilement de l'écriture, à la fois de l'écriture horizontale, de l'écriture verticale, à la fois du sens, des échos que ça a en soi. Bon, c'est tous ces appuis, quand ils sont bien travaillés, quand je me présente devant le public, j'ai ses appuis, j'ai ma fragilité parce que j'ai peur de...
Encore ?
Mais bien sûr, je veux dire, la rencontre avec le public est toujours une rencontre vertigineuse. Le public n'est jamais acquis. Le public est à convaincre, est à persuader, et il faut être suffisamment bon pour qu'il vous suive. Donc, bien sûr, il y a cette appréhension. Mais pour moi, il y a aussi la présentation de ces heures de travail, dont je suis fier. Et si vous en voulez, ben je suis super content. Et puis si vous n'en voulez pas, j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu. Voilà.
Alors le poème, en tout cas, vous l'avez dit, Didier Sandre fait bilan et puis élucide ou examine en tout cas une série de crises traversées par Claudel. Hein, vous l'avez dit, hein, l'échec de sa vocation monastique, sa rencontre avec la rose, et puis bien sûr la révélation de Rimbaud. Est-ce que vous voulez bien nous en lire un extrait, s'il vous plaît?
Oui, alors il y a ce passage où il se prend un peu pour Rimbaud. Rimbaud et il pense Rimbaud est un mystique qui s'ignorait lui-même et qu'il aurait dû connaître le Christ, etc. Et l'accepter et tout. Et que, voilà. Alors, qui aurait pénétré dans ces lieux où les anges mauvais sont liés ainsi qu'il a été écrit dans la Bible? Qui aurait déchiffré ce texte d'or une seconde dont deux ou trois lignes au soir deviennent lisibles? Qui se serait mêlé si intimement à la nuit? Qui aurait coopéré du fond des ténèbres avec l'aurore? Qui eut marché ce terrible chemin toute la nuit dans la communion des êtres qui ne sont pas encore, toute la nuit, au troisième étage du ciel, annonçant le temps nouveau, cette espèce de géant stellaire? Toute la nuit, l'œil à l'étoile des mages, cette flamme rose, tout à coup, sur les eaux salées dans le désert. Ton siècle étant redevenu païen, tu avais à recommencer la recherche et l'attente avec ta vie des hommes de l'Ancien Testament qui marchaient à la rencontre du Messie. Il n'y avait pas de rencontre à l'auberge arrangeable entre toi et l'éternelle présence. Il n'y avait pas de rapport possible entre vous que la communication de substance à substance. Il n'y avait pas moyen pour toi d'arriver à la vie que de mourir. Ce n'est pas le pain, c'est le calice qui était réservé à un si grand désir. Piéton de toutes les routes vers le désert, le temps vient que tu ne peux plus avancer. L'équilibre de ces deux jambes en marche, Dieu lui-même te l'a retranché. Jusqu'à ce que dans ce port suprême où tu demandas à ta sœur de te conduire, tu entends une voix disant « Rimbaud, pensais-tu toujours me fuir ?»
Merci. Merci beaucoup Didier Sandre. Oui, et donc l'idée, alors là c'est vraiment dans le dernier vers, hein, l'idée que au fond Rimbaud aurait fui Dieu toute sa vie, ce qui d'une certaine façon le rattache évidemment infiniment à Dieu. Ce Rimbaud à la lumière duquel il se place, hein, je pense à un texte dans ma conversion en 1913, il écrit « La lecture des Illuminations, puis quelques mois après d'une saison en enfer, fut pour moi un événement capital. À Mallarmé, il écrit en 1897 « Je puis dire que je dois à Rimbaud tout ce que je suis intellectuellement et moralement. » Alors c'est vrai que ça peut frapper ou surprendre ou étonner, on va en parler d'ailleurs avec Frédéric Thomas, mais au fond, qu'est-ce que Rimbaud lui révèle, hein, ou de quel secours va-t-il être pour lui? Et c'est pas seulement dans les années 80 quand il le découvre, hein, il y a un long compagnonnage, une fidélité jusqu'au bout.
Il est mort avec le livre d'Henri Mondor qui venait de paraître et qu'il avait dû recevoir quelques jours avant. Sur Rimbaud, enfin c'est Rimbaud et Rosalie Vetch, cette rose, ont été quand même les deux grandes passions terrestres de sa vie. C'est très mystérieux la façon dont il a compris les illuminations et comment ça l'a emmené vers l'écriture lui-même. Moi, je suis assez mal placé pour je suis pas assez fort en études littéraires ou etc. pour vous expliquer. Moi, je suis un interprète, donc j'essaye de le faire passer dans ce qu'un corps d'homme peut comprendre d'un texte et le faire passer. Et c'est beaucoup, souvent de façon très intuitive, qui se révèle parfois juste d'ailleurs, mais pas toujours, on se trompe.
Mais dans ce texte-là, justement, dans ce poème-là, oui, quel est le Rimbaud qu'il révèle, hein, parce que c'est assez curieux, c'est pas le Rimbaud, enfin c'est encore un autre Rimbaud. Alors on sent qu'il fonde effectivement une sorte de mystique. Hein.
Il y a quand même le Rimbaud, quand même quand il dit « Tant que je n'ai pas trouvé le paradis, à moi le maximum de désolation dans le maximum de lumière, tant que je n'ai pas trouvé le paradis, la vraie place pour moi est ce qui ressemble le plus à l'enfer. » C'est quand même assez juste, je trouve, par rapport à la saison en enfer. Maintenant qu'il ait voulu en faire une espèce de mystique aux pieds nus, justement, qui après sa poésie ait cherché la révélation et l'éblouissement dans le soleil d'Éthiopie et tout ça, l'explication, elle lui appartient. J'ai une interrogation poétique dessus, mais je pourrais pas vous donner d'explication parce qu'elle est sans doute extrêmement complexe et mystérieuse dans la psychologie de Claudel.
Claudel qui s'était inquiété d'ailleurs, hein, lourdement que Rimbaud ne soit pas mort en catholique, hein, c'était aussi une de ses inquiétudes. Frédéric Thomas, je ne sais pas si vous avez pu, de là où vous êtes, bien entendre la lecture de Didier Sandre. Claudel rimbaldien, ça oui, vous oui. étonne, hein?
Oui, ça m'étonne et en même temps je pense que, bon, il y a une interprétation propre à Claudel, mais ce qu'il a saisi, c'est qu'il y a qu'il y a un environnement chrétien qui avec lequel ce débat Rimbaud, je pense pas par contre qu'il y ait une fuite de Dieu Rimbaud, par contre il y a une mêlée constante. Il est anticlérical et en même temps il cherche à disputer à la religion catholique ses enchantements, ses forces, ses énergies, à les reconfigurer par rapport à un mode terrestre. C'est dans une saison d'enfer cette idée quand serons-nous les premiers à fêter Noël sur Terre. Donc c'est vraiment l'idée de ramener le ciel sur la Terre.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farid.
La jambe de Rimbaud, de retour à Marseille, comme un affreux cargo chargé des troncs vermeils, dérive en immondice à travers les égouts. La beauté fut assise un soir sur ses genoux. Horreur à rare Arthur, et tu l'as injurié. Horreur à rare Arthur, tu l'as trouvé amère. La beauté. Une saison en enfer foudroie l'Abyssinie. Aux sorcières, aux misères, aux haines, aux guerres, voici le temps des assassins que tu sponsorisas en livrant tous tes flingues au royaume de Shoah. Horreur à rare Arthur, au Bentley, au château. Horreur à rare Arthur, quelle âme Arthur est sans défaut.
Quelle âme Arthur est sans défaut, chante Hubert-Félix Thiéfaine dans l'affaire Rimbaud, certainement pas celle de Rimbaud, Frédéric Thomas. Pourquoi avoir choisi ce titre
hein? Parce que c'est souvent décevant les reprises, les mises en musique des textes de Rimbaud, parce que c'est trop déclamatoire, où on perd la charge ironique ou désinvolte aussi de ses poèmes, et que c'est véritablement là, quand il y a expérimentation, quand il y a réappropriation, comme dans ce cas-ci, où on arrive à faire passer une part de la charge explosive de ses poèmes.
Frédéric Thomas, vous êtes chercheur au CETRI, à Louvain, auteur d'un tout frais Rimbaud Révolution aux éditions L'Échappée, membre du comité de rédaction de Dissidence, auteur déjà d'un Salut et Liberté, regard croisé sur Saint-Just et Rimbaud, et d'un Rimbaud et Marx. Repolitiser Arthur Rimbaud, que vous nouez à la Commune, bien sûr, mais aussi à Marx, et au contexte d'après-guerre des surréalistes. Le repolitiser donc, c'est dire qu'on aurait manqué quelque chose?
Mais il s'agit moins de repolitiser Rimbaud, parce qu'il n'en a pas besoin, que de repolitiser notre regard.
Bien sûr.
Et oui, je pense qu'on a sous-estimé cette charge politique de Rimbaud, auquel il ne se réduit pas, bien sûr, et qui dépasse, mais qui est bien présente, et qui tient à la fois à ce contexte très particulier dans lequel il vit et décrit. Donc il écrit dans les années 1870, 71 et après, soit... à la fin de l'Empire, au moment de la guerre franco-prussienne, de l'occupation du siège de Paris, puis de la Commune de Paris, son écrasement, l'exil pour les communards qui ont pu échapper à la répression, à la Semaine sanglante, ces mêmes communards qu'il va fréquenter avec Verlaine et à Bruxelles et à Londres. Donc il y a le contexte très particulier, très troublé de son époque. Il y a aussi, je pense, pour moi, dans Rimbaud, dans ce qu'il écrit, une réflexion permanente sur les conditions de possibilité, ou plus exactement d'impossibilité, de la poésie. C'est-à-dire, il écrit de la poésie, il veut être publié, il veut vivre une poésie dans un monde qu'il perçoit de plus en plus comme sans poésie, voire hostile à la poésie.
Quand vous dites repolitiser nos lectures, notre lecture, d'une certaine façon, comment expliquez-vous qu'on traîne tant la patte ? Est-ce qu'on aurait craint que repolitiser veuille dire dépoétiser ?
Oui, je pense qu'il y a une fausse compréhension de la politique avec une division du travail. Si c'est politique, ça peut pas être poétique. Si c'est un poète maudit, si c'est un poète voyant, alors il ne peut pas s'embarrasser de questions vulgaires comme de la question sociale, la question politique. Je pense que donc c'est un double rendez-vous manqué de ce qu'est la poésie, de ce qu'est la politique. Et évidemment, ce n'est pas un militant politique, mais il prend en charge tout un imaginaire qui renvoie aussi aux débats sociaux, politiques de son époque et à cette volonté qu'il porte que la poésie doit être en avant de l'action, doit participer à une nouvelle citoyenneté. Il renvoie au poète grec et elle doit changer la vie. Donc il n'écrit pas simplement pour être publié, il écrit en donnant un pouvoir ou en espérant redonner à la poésie un pouvoir de transformation des relations des êtres, de la manière dont ils vivent et dont ils aiment, qu'ils aiment.
Vous parliez, Frédéric Thomas, du lecteur et donc de renouveler éventuellement le regard du lecteur sur Rimbaud. Il y a évidemment une histoire des lecteurs de Rimbaud, à commencer par Verlaine. Est-ce que vous pensez que, au fond, Verlaine serait aussi en partie responsable de cette façon de minimiser cette dimension politique ? Parce que vous signalez dans vos écrits comment Verlaine, à la fin de sa vie, étant lui-même devenu, disons, catholique et conservateur, très catholique et conservateur, et qu'il aurait d'une certaine façon retravaillé un petit peu cette partie-là, qu'il a pourtant partagée avec Rimbaud, cette partie-là, ce souffle-là de l'œuvre de Rimbaud.
Oui, mais tout à fait. Je pensais à Yves Reboul qui disait que l'un des drames des lectures de l'héritage de Rimbaud, c'est que les premiers lecteurs ont tous fait preuve de faux témoignages. On pense à sa sœur et à Verlaine, qui pour toute une série de raisons ont voulu canaliser Rimbaud et donc évacuer toute une partie, certaines dimensions de sa poésie. Et donc les témoignages de Verlaine sont fluctuants, mais il a tué certaines dimensions du fait de leur relation amoureuse, passionnelle, du fait aussi de son propre catholicisme, alors que ça ne correspondait pas à son positionnement et poétique et politique au moment de la Commune de Paris.
Quand vous dites, Frédéric Thomas, qu'on a probablement, et on le fait sans doute encore, hein, et pas seulement pour Rimbaud, hein, un petit peu réparti le travail ou divisé le travail, donc il y aurait le poétique et le politique, finalement, au regard de ses écrits, à vous lire, hein, de ses poèmes, il y aurait façon de nouer cette idée de l'ici et maintenant, c'est-à-dire une idée politique au fond, et la figure prophétique qu'on a faite de Rimbaud. Et c'est ça précisément qu'on trouverait dans ses poèmes.
Oui, je pense que dans ces poèmes, c'est la place des êtres humains, c'est la place du poète dans la cité, et donc au-delà du poète, la place de chacun. Et celle de cette, il fait partie vraiment de cette de ce qui va être encore plus après la Commune de Paris, de cette des vaincus qui sont les ouvriers, la populace avec laquelle. Le sort des ouvriers en lutte est lié au sort de la poésie. C'est ça véritablement qui se noue chez Rimbaud et qui est intéressant, c'est que la poésie, le rôle du poète, la dignité et le destin de la poésie est lié au destin des luttes qui se jouent alors en France et dans le monde. Et donc c'est véritablement là qu'il y a un niveau très organique. Évidemment, c'est pas simplement une alliance de poètes et d'un parti. C'est bien plus un niveau plus organique. Une question qui renvoie au sort qui est fait aux êtres humains, la place qui leur est faite, au sort qui est fait entre les relations entre les hommes et les femmes, entre les hommes. Ça renvoie à une question qui est et poétique et politique.
Bien sûr. Alors pour en terminer avec la minoration de la dimension politique, hein, avec cette rapide histoire de la lecture de Rimbaud par ce prisme-là, vous évoquez aussi le relatif silence qui a suivi la publication par vos soins dans la revue d'études rimbaldienne d'une lettre adressée par Rimbaud à Jules Andrieux le 16 avril 1874, quoique dans mon souvenir France Culture en ait parlé dans une chronique, et vous consacrez dans le dernier numéro de Parade Sauvage, donc cette même revue, un article à ce lien, à cette fraternité d'esprit entre Jules Andrieux et Rimbaud, c'est-à-dire qu'on est juste après la défaite de la Commune. Jules Andrieux est un communard exilé à Londres avec lequel Verlaine va le mettre en contact. De quoi est faite cette petite, disons, communauté d'intellectuels déclassés, hein, comme on les a appelés, à ce moment-là, ce que Verlaine appelle des bons bougres, tous panés, tous piochants? Qui sont ces gens?
Oui, donc c'est intéressant parce que c'est vraiment le milieu dans lequel évoluent Verlaine et Rimbaud. Donc c'est ce que les frères Goncourt vont appeler les mauvais artistes, la bohème barbare. Ce sont en fait des caricaturistes, des journalistes, ce qu'on appelle de la petite presse, c'est Vermeer, Chandrieux. C'est Georges Cavalier, dit Pipon-Bois. C'est dans un second cercle, on peut considérer Lissagaré aussi, le futur auteur de l'histoire de la Commune de Paris. Donc c'est des intellectuels déclassés qui vont être doublement condamnés parce que ils ont participé à la Commune, mais qu'en plus c'était des intellectuels qui mêlent politique et culture et qui mêlent l'art noble et l'art vulgaire, qui serait l'art populaire à travers leur espace de production qui sont cette petite presse tant décriée. Et donc c'est dans ce milieu-là qu'évoluent Rimbaud et Verlaine, d'abord à Bruxelles puis à Londres. Et donc c'est cette lettre, elle est étonnante par sa date, parce que vous ne connaissez pas de lettre de Rimbaud de 74. Par son destinataire, elle confirme que Rimbaud évolue bien dans un milieu communard, on connaissait les liens qu'il y avait, mais là, ça consacre un peu plus. Et elle est encore plus étonnante par son contenu, par les références et par son style.
Alors, on va y venir, évidemment, à ce contenu, Frédéric Thomas, mais peut-être un mot. Alors, vous semblez bien le connaître, nous, beaucoup moins. Qui est véritablement ce Jules Andrieux à qui Rimbaud s'adresse en 1874?
Mais donc Jules Andrieux, c'est un ex-membre de la Commune. Il a d'abord été directeur du personnel administratif. Il travaillait déjà à l'Hôtel de Ville. En fait, c'est un collègue de Verlaine. C'est par là que Verlaine va le connaître. Il participe de ce qu'on appelle les poètes de l'Hôtel de Ville dans les années 1860. Avec Verlaine, il y a Mérat et Valade, qui sont tous des fonctionnaires de la ville de Paris, qui par ailleurs publient. C'est un poète, c'est un pédagogue. C'est un historien qui a déjà publié plusieurs livres. Il est né en 1838, donc il est aîné de Rimbaud, pardon, d'une quinzaine d'années. Donc c'est un grand pédagogue, un grand moraliste. Il a écrit sur le Moyen Âge, sur l'histoire du Moyen Âge, sur la philosophie et morale. Il est engagé dans au moment de la Commune de Paris. C'est une des figures intellectuelles importantes, bien qu'effacée, discrète. Il arrive à s'échapper et donc le retrouve à Londres, Verlaine, et lui présente Rimbaud. On sait que par l'ami de Rimbaud, celui-ci considérait Jules Andrieux comme un frère d'esprit. Or, Jules Andrieux, son rôle est intéressant aussi parce que c'est un passeur. Il fait le passage entre les courants, entre la plus jeune génération, la plus ancienne génération d'écrivains des années 60 et la nouvelle qu'incarne Rimbaud. Aussi entre les milieux journalistiques et ceux politiques, des milieux ouvriers. Et il est comme l'ensemble des acteurs communards en exil que rencontre Verlaine et Rimbaud, il est préoccupé pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, par essayer d'encaisser, d'enregistrer l'impact de la répression de la Commune, de la Semaine sanglante, mais de revenir un peu sur l'histoire pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que cette idée de progrès à laquelle ils avaient cru s'effondre et cassée net par cette répression très forte. Et donc, il y a une véritable, ils sont dans une réflexion. Il est au moment où Rimbaud et Verlaine le rencontrent, il termine son livre qui sera publié un siècle plus tard, Note pour servir à l'histoire de la Commune. Il est, comme Lissagaré et comme d'autres, dans cette contre-enquête sur qu'est-ce qui s'est passé pour revenir, pour donner non seulement la vérité sur ce qu'était la Commune de Paris, mais aussi pour lui donner un autre sens, quelle est la morale, entre guillemets, de cette histoire.
Alors, à propos d'histoire, justement, à Jules Andrieux, Rimbaud fait part d'un projet d'écriture hein, qu'il appellerait une histoire splendide hein, qui ferait comme ça une sorte d'histoire des bravoures et des violences. Il écrit hein, à la toute fin de la lettre, Rimbaud, « Je sollicite de vous une demi-heure de conversation, l'heure et le lieu s'il vous plaît, sûr que vous avez saisi le plan et que nous l'expliquerons promptement pour une forme inouïe et anglaise. » Alors ça mérite quelques explications. Alors si tenté, vous êtes prudent hein, quant à cette lettre, mais néanmoins vous avez de bonnes raisons, et vous n'êtes pas le seul, hein, de bonnes raisons de penser qu'elle est tout à fait authentique. Quel en était le plan, quelles en étaient les ambitions de cette histoire-là, de ce projet d'histoire de Rimbaud ?
Oui, peut-être d'abord dire que j'étais assez prudent quand je l'ai découvert, l'ai rendu public. À ce jour, il semble bon authentifié qu'il s'agit véritablement d'une lettre de Rimbaud. Et donc, alors, quelle était l'ambition ? C'est une lettre à la fois qui ressemble très fort à Rimbaud par son impatience, sa démesure et son ironie. C'est-à-dire, il écrit à Jules Andrieux parce qu'il le connaît, parce que Jules Andrieux lui-même a publié des livres en France et il a publié dans une revue anglaise un article sur la Commune de Paris. Donc il imagine, et que c'est aussi quelqu'un, un autodidacte, qui a une connaissance importante de l'histoire, de la morale, de la philosophie. Donc il voit, on lui demande conseil pour publier
pour cette histoire splendide justement. Qui serait, voilà. Donc, qu'est-ce que ce serait que cette histoire splendide ?
Oui, donc c'est à la fois une... Il veut en faire un feuilleton historique de littérature industrielle pour vendre. Il parle plusieurs fois de réclame d'un côté, mais d'un autre, il parle d'en faire quelque chose dans un style négatif, en mettant le curseur sur la perversion et en ne parlant que des migrations, des batailles et des scènes révolutionnaires. Donc, on a véritablement cette ambivalence permanente de Rimbaud qui parle d'une. Il veut faire une fresque. Il parle de morceau historique de bravoure qui reviendrait sur l'histoire. Moi, je l'interprète qu'en fait, il veut en faire une contre-légende des siècles à l'encontre de Hugo qui dessine un peu la marche victorieuse des peuples. Lui, il veut montrer les zones d'ombre, le hors-champ de cette vision historique en montrant la part de violence de qu'est cette marche de l'histoire.
Alors ce projet-là ne verra évidemment jamais le jour, ça se saurait, mais vous, Frédéric Thomas, vous en percevez des traces, ou du moins les ambitions dans les Illuminations. Qu'est-ce qu'il en reste de ce projet d'histoire splendide ?
Mais je pense qu'on retrouve dans les Illuminations toute une série de moments particuliers que vise ce projet d'histoire splendide, à savoir les scènes révolutionnaires, les batailles, les migrations qui traversent plusieurs des Illuminations. Il y a aussi toute une volonté de mêler une part de historique et mystique, voire il se parle illuminé aussi, avec toute une série d'images qui est frappante. Et donc il y a tout un climat qu'on retrouve en partie dans les Illuminations, qui est aussi de revenir un peu sur sur à la fois l'histoire et les images qu'on a de cette histoire d'une manière on va dire détournée, ce qu'il appelle la perversion, le style négatif.
Quand vous parliez de ces intellectuels déclassés, Frédéric Thomas, justement, auxquels Rimbaud s'adresse, hein, c'est aussi, pour Rimbaud en tout cas, se placer du côté des vaincus, au regard justement de cette histoire splendide hein, qu'il envisage. Hein, se placer du côté des vaincus, qu'est-ce que ça veut dire pour Rimbaud ? C'est là aussi la part révolutionnaire de Rimbaud ? C'est dire un rapport à l'histoire ? C'est dire une poétique ?
Oui, je pense qu'il est, il se positionne clairement là, à la fois par projet, par son projet d'encrapulement, par volonté, par maladresse, très vite, de toute façon, il va se griller de toute possibilité de publication à Paris, ses frasques, par sa relation homosexuelle avec Verlaine, par ses idées, par sa critique du travail, par son rejet de l'ordre moral, culturel et politique qui est imposé au lendemain de la semaine sanglante, et par une fidélité véritablement à de quel côté est la poésie. Elle est du côté des nègres, des barbares, des vaincus, des ouvriers qui sont en exil. Donc c'est véritablement cette fraternité d'esprit. Elle s'explique aussi par une topographie particulière de la poésie, où la poésie est de ce côté-là et pas du tout du côté d'une esthétisation des misères ou d'une idéalisation de la victoire des Versaillais sur la Commune de Paris.
Que vous mettez en lien, hein, d'ailleurs, Frédéric Thomas, avec ce mouvement qu'on a souvent dans les poèmes de Rimbaud, c'est-à-dire avec cette part d'émerveillement et qui s'achève sur une désillusion, je pense en particulier à la fin du Bateau ivre.
Oui, pour moi, c'est vraiment c'est aussi ça qui est une charge politique, c'est dans le rythme, dans la texture même de ces poèmes, dans ces images, ces enchantements, ces émerveillements qu'on ne fait qu'entreapercevoir avant qu'ils ne disparaissent, et qui disent aussi qu'il n'y a pas de solution définitive dans le poème lui-même, que le sort de la poésie renvoie à des conditions qui ne sont pas que poétiques, qui renvoient à des conditions sociales. Et donc Rimbaud est aussi toujours dans ses poèmes, dans un questionnement sur comment capter l'émerveillement, les promesses des contes ou des rires des enfants, sans les trahir, sans en faire quelque chose de fétichisé, sachant qu'on est dans un monde sur lequel ne cesse de se briser ces élans poétiques.
Didier Sandre, vous avez un rapport de lecteur assidu à Rimbaud. Alors, vous avez donné des lectures à plusieurs reprises, souvent accompagnées de musique. Hein, je pense notamment à un récital avec Liszt et un autre avec Janáček.
La saison en enfer, oui. Et puis Janáček, oui. Oui, moi, bon, c'est passionnant d'entendre parler de Rimbaud, etc. Moi, je le ressens aussi comme un révolté, comme un engagé politique du côté des vaincus et du côté de cette poésie nouvelle. Mais il y a aussi dans le dernier poème des Illuminations, génie. Il y a aussi l'avènement du temps nouveau, l'avènement, une espèce de modèle social qui est bâti sur le modèle évangélique, en quelque sorte, sur le dernier poème qui s'appelle Génie, je crois. Mais la grande question, c'est de savoir pourquoi tout ça a cessé si vite aussi. Est-ce que avec l'écriture, cet engagement politique, cette action politique, s'est arrêté? Parce qu'après, bon, quand il s'est engagé dans l'armée, et puis qu'il est parti en Afrique, je veux dire, quel homme politique est-il devenu, là, à ce moment-là?
Frédéric Thomas, est-ce qu'il y a une convergence entre l'adieu à la poésie et l'adieu aux politiques? Si adieu aux politiques, il y a.
En partie, oui, en tout cas, il y a une rupture très nette à partir du moment où où il n'écrit plus, il tourne un peu le dos à tout cela. Jusqu'à quel point il y a une part de continuité, ça reste débattu. Mais en tout cas, il y a une rupture. Ce n'est pas le même Rimbaud une fois qu'il a cessé d'écrire.
Frédéric Thomas, Didier Sandre, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les deux. La messe là-bas, je le rappelle, c'est jusqu'à dimanche au studio de la Comédie-Française à Paris et bientôt en tournée. Aujourd'hui, à la technique, Jean-Frédéric, à la préparation, Thierry Beauchamp et à la réalisation, François Connac. Vous trouverez toutes les actualités des invités du jour sur le site de France Culture, à la page de l'émission, à réécouter, partager et podcaster. La Compagnie des Poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit, pour notamment un hommage au poète Claude Vigée, disparu cette semaine. Bon après-midi à toutes et à tous. One day exactly.